en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre sur Canal Académie. Pour chaque élection d'un nouvel académicien à l'Académie française, Mireille Pastoureau, conservateur et directeur de la bibliothèque de l'Institut, prépare une histoire du fauteuil sur lequel il va désormais siéger. C'est à la fois une surprise pour l'académicien et un cadeau de bienvenue. Et c'est ainsi que pour la réception de Monsieur Max Gallo, reçu sous la coupole le 31 janvier 2008, Mireille Pastoureau a sorti du fond de sa riche bibliothèque tout un ensemble de documents relatifs aux académiciens qui, au fil de l'histoire, ont siégé sur le 24e fauteuil. Mireille Pastoureau, bonjour.
Bonjour.
Qui donc était le prédécesseur de Monsieur Max Gallo ?
Le prédécesseur direct de Monsieur Max Gallo était Jean-François Revel, qui est décédé en 2006.
Et Max Gallo est le 21e occupant de ce fauteuil. Et quel fut donc le premier ?
Alors, le premier occupant n'est plus connu aujourd'hui. C'était un personnage au service des cardinaux de Richelieu, puis ensuite de Mazarin. Il s'appelait Jean Sillon, S-I-L-H-O-N. Et il a été admis, c'est-à-dire que en 1634, à la toute première origine de l'Académie, où on ne procédait pas réellement à des élections, mais un peu à une cooptation parmi les amis ou les proches. C'est ainsi qu'il est entré à l'Académie. Il était philosophe et il faisait aussi des ouvrages de politique et de morale.
Et puis alors son successeur, lui, beaucoup plus connu. Alors le numéro 2 de ce 25e fauteuil.
Alors le numéro 2 est un personnage éminent, c'est Jean-Baptiste Colbert, le principal ministre de Louis XIV, qui, dès ses débuts, a porté une grande attention à l'Académie française. Et donc il a été élu à l'Académie en 1667. Et il a participé à des séances. Dès son élection, il est venu à l'improviste à une séance du dictionnaire, alors que la définition du mot « ami » faisait l'objet des débats. Vous voyez qu'on était au début du dictionnaire, c'était la lettre
ami.
A.
Et si « ami » fait des débats, alors que ce doit être pour les autres mots.
Voilà. Et à la fin de la réunion, le ministre a rendu hommage à l'exactitude de la méthode de l'Académie, mais vous savez que c'était un homme d'organisation, il a tout de suite vu que les travaux n'avançaient pas très vite et il a décidé de stimuler les académiciens. Et c'est Colbert qui est à l'origine des jetons de présence. Il a institué cet usage qui était de mettre 20 jetons en argent sur la table au début des séances que les présents se partageaient. Les académiciens présents à la séance du dictionnaire se partageaient. Et dès que cet usage a été introduit, les participants ont été beaucoup plus assidus aux séances du dictionnaire.
Alors vous avez un riche fonds concernant Colbert.
Exactement,
à la bibliothèque.
Exactement, nous avons un riche fonds qui provient des confiscations révolutionnaires. Vous savez qu'à la Révolution, les bibliothèques françaises ont été bouleversées et l'Institut a bénéficié de beaucoup d'ouvrages confisqués. Et dans l'exposition, nous montrons des reliures de la bibliothèque de Colbert. Colbert aimait beaucoup les livres. Il avait lui-même une très belle bibliothèque personnelle de 20 000 volumes imprimés plus de 5 000 manuscrits qu'il a transmis à des neveux et elle a été vendue en 1728 par un petit neveu de sorte que l'on retrouvait ses livres dans diverses bibliothèques privées et par le jeu des confiscations chez les nobles, les condamnés, les religieux, les émigrés, un certain nombre de ses livres est venu à l'Institut. Donc j'ai montré deux types différents de ses reliures avec ses armes, puisque au fil de sa vie, il a fait évoluer le décor de ses livres.
Et en effet, donc, ces reliures sont marquées aux armes de Colbert. Alors, armes d'or à la couleuvre ondoyante en pâle d'azur.
Voilà. C'est
je pense que les héraldistes.
Oui, c'est le libellé de ses armoiries. Voilà. Le symbole de Colbert dans ses armes, c'était la couleuvre qu'on appelait la guivre à l'époque. Donc, ce sont des armoiries, pour une fois, très faciles à reconnaître, ce qui n'est pas toujours le cas.
Alors, passons au personnage numéro 3 de ce 25e fauteuil, non moins célèbre.
Oui, nous aimons tous beaucoup Jean de La Fontaine, qui fut élu à l'Académie française en 1684 et qui, comme chacun sait, était maître des des eaux et forêts et poète. Et il participa avec assiduité aux travaux de l'Académie, où il laissa le souvenir d'un homme distrait, simple et discret.
Il était dans ses fables, voilà.
Je crois, exactement. Il a participé au travail du dictionnaire, puisque vous savez que la première édition du dictionnaire est parue en 1694. Donc tous les membres étaient mis à contribution, et pour sa part, il fut plus particulièrement chargé de relire les épreuves des lettres F à M.
Voilà, et à la bibliothèque de l'Institut, vous avez beaucoup de choses.
Alors oui, voilà. Alors là, c'est une grande chance. Il y eut en 1931 le legs d'un collectionneur qui était un homme de lettres du nom de Auguste Erhard, E-R-H-A-R-D, qui est mort en 1931, qui avait réuni une bibliothèque de 4000 livres et des archives. Et cet homme portait un intérêt particulier aux œuvres de La Fontaine. Et il a collectionné avec beaucoup de minutie toutes les éditions anciennes, non seulement des fables, mais aussi des contes de La Fontaine, qu'il ne faut pas oublier. Et nous avons montré dans l'exposition également des rébus, des jeux, puisque c'est des publicités de la fin du 19e siècle, des documents très curieux, parce que La Fontaine a inspiré vraiment toute la société. Les fables de La Fontaine sont universellement connues. Il a également des éditions en patois, auvergnat, gascon, tout ce qui peut exister sur La Fontaine et dans la collection est rare.
Très bien. Alors, comme il y a eu 21 occupants de ce fauteuil numéro 25, on va peut-être, Mireille Pastoureau, si vous le voulez bien, sauter quelques numéros pour arriver au 7e occupant, qui s'appelle Pierre Carlet de Chamblain, mais que l'on connaît sous un autre nom célèbre.
Oui, c'est Marivaux, effectivement, qui fut élu à l'Académie en 1742. Il fut élu à la troisième tentative pour ses pièces de théâtre et non pour ses romans, car le genre du roman méprisé au XVIIIe siècle n'était pas reconnu par l'Académie. Et donc nous avons montré un certain nombre de ses œuvres qui sont bien représentées à la bibliothèque, la vie de Marianne, les comédies, diverses œuvres de théâtre. Nous avons également montré des gravures originales de Watteau qui sont tout à fait dans l'esprit des comédies de Marivaux, qui ont pour décor un univers de fantaisie. Et nous avons de rares gravures d'Antoine Watteau qui illustrent très bien l'époque.
C'est une grande richesse alors que la bibliothèque possède. Alors nous allons passer encore quelques-uns de ces occupants du 25e fauteuil pour arriver au duc de Breuil.
Voilà, alors le duc de Breuil, il s'agit de Achille Victor, duc de Breuil, membre de la grande famille de Breuil, qui fut élu d'abord à l'Académie des sciences morales et politiques en 1833. Il est né en 1785 et mort en 1870. Et il fut ensuite élu à l'Académie française en 1855. Il était pair de France, il fut ministre de l'instruction publique en 1830, ministre des Affaires étrangères, puis député. Et il avait un salon littéraire et à l'Académie, il formait ce qu'on appelait alors et qui dura un certain temps, le parti des ducs.
Et vous avez des lettres de ce duc de Breuil?
Oui, nous avons tout un recueil de lettres dans le fond Royer-Collard. Des lettres assez amusantes qui datent de l'époque où il n'était pas encore membre de l'Académie française et il se demandait si avec sa médaille de pair on le laisserait entrer à l'Académie. Il demandait à Royer-Collard, qui lui était déjà membre, « Dites-moi ce que je dois faire ». C'est assez amusant. « Je suis un provincial ».
Donnez-moi des conseils oui, sur les moyens d'entrer.
Il était à la porte, voilà, dans tous les sens du terme. Et donc, il a été ministre et il est très connu pour un rapport qui lui avait été demandé sur les questions relatives à l'esclavage, car il était fermement anti-esclavagiste. Il avait été président de la Société française pour l'abolition de l'esclavage, fondée en 1834, et il présida une commission qui remit au roi Louis-Philippe un rapport en faveur de l'abolition de l'esclavage.
Alors rendons-lui hommage et puis passons à un autre personnage, toujours dans cette époque de la fin du XIXe siècle, René-François Armand Prudhomme, connu sous son pseudonyme
de Sully Prudhomme.
Oh, c'est pas tout à fait un pseudonyme, en fait. On va comprendre peut-être pourquoi.
Et il fut élu à l'Académie en 1881. Donc, c'est un poète qui, en son temps, a eu un immense succès, qui n'est plus beaucoup lu aujourd'hui. Et on ne sait pas toujours qu'il fut le premier écrivain à recevoir le prix Nobel de littérature en 1901. Et il en affecta le montant à la fondation d'un prix de poésie qui est toujours distribué chaque année par la Société des gens de lettres à un jeune poète.
Alors, si vous êtes poète, avis aux amateurs. Son successeur, c'est, alors là, on change de genre, plutôt un scientifique.
Oui, c'est un très très grand scientifique, c'est Henri Poincaré, élu à l'Académie des sciences en 1887 et à l'Académie française en 1908. C'est un immense savant, mathématicien, mécanicien, astronome, ingénieur des mines et philosophe. Il explora de nombreuses voies de recherche en physique, dont le principe de la relativité, ainsi qu'en astrophysique. Et il fut également un philosophe des sciences reconnu.
L'Académie française aime bien justement accueillir en son sein des scientifiques.
Tout à fait.
Du moment qu'ils ont aussi une vue très large sur le genre humain, sur la vie en général.
Exactement. Donc, ce nom de Poincaré, bien sûr, nous renvoie à un autre académicien. Raymond Poincaré, c'était son cousin. Le président de la République, Raymond Poincaré, était le cousin d'Henri Poincaré, dont nous parlons actuellement. Et donc, Raymond Poincaré, le cousin, fut élu à l'Académie française un an après lui.
Alors, autre personnage, mais dans un genre tout à fait différent, le successeur d'Henri Poincaré, donc, lui, c'est un journaliste. Il y a comme ça, quelquefois, des journalistes à l'Académie.
Parfaitement, c'est un genre qui est traditionnellement représenté à l'Académie. Il s'agit d'Alfred Capu, qui fut élu en 1914. Il était originaire de Provence. Il avait commencé par entrer à l'école des mines, mais au bout d'un an, il trouva d'autres occupations. Il s'orienta vers le journalisme, sous le pseudonyme de Grain d'Orge, et la carrière des lettres.
Et il était journaliste dans quel journal, essentiellement?
Dans Le Figaro, dont il devint en 1914, à la mort de Gaston Calmette, le rédacteur en chef. Et dans Le Figaro, il rédigea avec patriotisme, pendant les 4 années de la Grande Guerre, le bulletin quotidien. Et auparavant, il avait commencé une œuvre littéraire avec une série de romans, mais c'est au théâtre qu'il donna la pleine mesure de son talent avec des pièces de boulevard mettant en scène les mœurs de la belle époque. Et nous avons montré des pièces telles que Monsieur veut rire ou Les maris de Léontine, qui donnent tout de suite une idée de la tonalité.
Est-ce qu'on les joue encore, ces pièces d'Alfred Capu?
Il faudrait les reprendre, certainement.
Alors, son successeur, de nouveau, un ingénieur.
Ah oui, puis alors un personnage très curieux, polytechnicien, c'est Édouard Estonnier. Il y a à l'école Polytechnique, actuellement un amphithéâtre, Édouard Estonnier, qui a été, mais ils ne savent peut-être pas qu'il fut élu à l'Académie française en 1923. Il était ingénieur, inspecteur général des postes et des télégraphes. Il inventa en 1904 le mot télécommunication, mais il avait un très grand intérêt pour la littérature et publia des romans ayant pour cadre la vie provinciale bourguignonne et qui eurent un très grand succès. Son premier roman est un simple, dont la première édition date de 1888. Et nous avons également montré L'Empreinte, qui est un roman à caractère autobiographique qui critique la manipulation des esprits dans un collège de jésuites. Là, on est dans la vie provinciale. Tout est très mélancolique chez Estonnier. Il y en a un autre qui s'appelle Solitude. Mais c'est un personnage très intéressant.
En tout cas, il a rempli son rôle d'académicien parfaitement. Il a inventé un mot et ce mot inventé tout de même en 1904 dure toujours et est très moderne, télécommunication.
Tout à fait.
Ça, c'est tout à fait, il faut lui rendre hommage rien que pour cela. Mm-hmm. Son successeur, alors plutôt un médecin.
Oui, et c'est Louis Pasteur Valery Radeau, élu à l'Académie en 1944, qui est le petit-fils de Louis Pasteur et qui œuvra à garder vivante la mémoire de son grand-père. Il a annoté et publié la correspondance de Pasteur, à qui il consacra plusieurs volumes. Bon, il était également professeur de médecine, Il joua un rôle très actif dans la résistance et dirigea à la libération le ministère de la Santé publique.
Oui, c'est très amusant. J'ai découvert en voyant cette exposition qu'il avait fait un livre sur Claude Debussy.
Oui, parce que depuis sa jeunesse, il était un admirateur enthousiaste de Claude Debussy. Donc, en 1958, il écrivit un ouvrage intitulé « Tel était Claude Debussy ».
Qui n'était pas académicien, hélas. Son successeur de ce Louis Pasteur Valéry Rabault, c'est Étienne Wolff.
Étienne Wolff, élu à l'Académie des sciences en 1963 et à l'Académie française en 1971, un biologiste qui fut un pionnier dans le domaine de l'embryologie et de la tératologie expérimentale. D'ailleurs, les couvertures des livres que nous exposons sont tout à fait étonnantes. Déjà, les titres eux-mêmes des ouvrages sont tout à fait parlants. Il y a les changements de sexe, la science des mots, monstre, trois pattes pour un canard, et effectivement, c'est un canard, un véritable canard à trois pattes qui est photographié sur la couverture, souvenir d'un biologiste, ça c'est le titre de les trois pattes pour un canard et le titre de son ouvrage de souvenir, de mémoire. Il a étudié la production expérimentale de monstruosité, le rôle des hormones et des inducteurs dans le développement, sur les cultures d'organes, c'est à l'origine de progrès considérables, naturellement, sur les facteurs de croissance des cancers humains. Et il a également traité des problèmes généraux de biologie et de méthode dans les sciences.
Vraiment un pionnier, justement. On voit que tout ce que vous avez cité dans ses recherches, ça fait encore aujourd'hui l'objet et à la fois de recherches et de débats éthiques. Enfin, c'est donc un pionnier dans ce domaine. Et on arrive maintenant au prédécesseur de Max Gallo, c'est-à-dire le numéro 20 de ce 24e fauteuil.
Voilà, Jean-François Revel, que nous avait bien connu à la bibliothèque parce qu'il participait à la commission du dictionnaire tous les jeudis matins et il passait régulièrement à la bibliothèque avant de se rendre à la commission du dictionnaire. Donc c'était un personnage qui nous était familier. Donc je ne vais peut-être pas retracer toute sa carrière. Chacun sait qu'il était ancien élève de l'école normale supérieure, agrégé de philosophie, de son véritable nom. Il était Jean-François Ricard, donc il fut chroniqueur et essayiste, il participa à la résistance, il enseigna en Algérie, à l'étranger, il enseigna jusqu'en 1963 et sa carrière littéraire commença vers 1957 ainsi que sa carrière journalistique. Il a en outre assumé les fonctions de conseiller littéraire et de directeur de collection chez René Julliard, Jean-Jacques Pauvert et Robert Laffont, jusqu'en 1978, date à laquelle il devint directeur de l'hebdomadaire L'Express, dont il était l'un des éditorialistes. Et il démissionna de la direction de L'Express en 1981 pour devenir en 1982 chroniqueur au Point. Nous avons montré un grand nombre de ses œuvres, ce n'est pas exhaustif.
On ne peut pas être exhaustif, en effet, parce qu'il a beaucoup publié et beaucoup travaillé.
Voilà, il a beaucoup publié.
Son successeur aussi, Max Gallo, vous allez avoir du mal à tout montrer.
Exactement, il a aussi beaucoup publié. Tout à fait.
Mireille Pastoureau, merci infiniment. Je rappelle à nos auditeurs que vous pouvez écouter la retransmission de la séance de réception de Max Gallo sur Canal Académie, elle est en médiathèque. Vous pouvez aussi écouter Alain Decaux qui évoque son ami Max Gallo, puisque c'est lui qui a fait le discours, mais ça c'est dans nos vidéos. Et si vous souhaitez connaître d'autres histoires de fauteuils académiques, vous en trouverez également dans notre médiathèque, toujours avec Mireille Pastoureau, que je remercie infiniment et à une autre fois.
Au revoir, merci.